Bienvenue à tous dans notre émission Le Savoir de la Méditerranée. Nous sommes actuellement le 1er avril 2025, il est 15h27 et aujourd'hui nous plongeons au cœur des mystères de l'univers en explorant les recherches et les découvertes qui font rayonner la région. L'émission débutera par une chronique sur les scientifiques égyptiennes, mettant en lumière leurs contributions historiques et leur impact sur la recherche moderne. La seconde partie comprendra deux interviews exclusives entre une astrophysicienne italienne et une astrophysicienne algérienne, qui discuteront de leur expérience, recherche et perspectives sur l'avenir de l'astrophysique. Restez avec nous pour découvrir ces histoires captivantes. Maintenant, plongeons ensemble dans le parcours de plusieurs femmes scientifiques faites de découvertes, de luttes et d'inspiration. Bonjour Nahoras, nous sommes ravis de t'accueillir aujourd'hui dans notre émission.
Bonjour, je suis même ravi de participer à cette émission.
Aujourd'hui, tu comptes nous parler des femmes scientifiques en Égypte ?
C'est ça, tout à fait.
Ok, mais du coup, c'est quoi l'histoire des sciences, pardon ?
Bah, à vrai dire, lorsqu'on parle de l'histoire des sciences, on se retrouve souvent face à des figures incontournables, des noms gravés à jamais dans les mémoires. On a par exemple Marie Curie, Ada Lovelace ou encore Albert Einstein. Mais pourquoi on ne met pas plus en avant les figures féminines qui ont marqué l'histoire de la science ? Bien avant que la lutte pour l'égalité des sexes soit réellement présente. Pourquoi l'histoire de l'Égypte, berceau des sciences et des grandes découvertes, nous cache-t-elle encore tant de ces femmes brillantes qui ont joué un rôle déterminant dans l'évolution du savoir ? Aujourd'hui, je vais évoquer quatre femmes égyptiennes qui ont marqué le domaine des sciences, mais qui demeurent souvent méconnues malgré leurs héritages remarquables. Commençons par l'une des figures de l'histoire des sciences, Hypatie d'Alexandrie. Si je vous dis Hypatie, à quoi vous pensez ?
Peut-être une mathématicienne, une astronome ou une philosophe ?
Eh bien, Hypatie a été tout cela à la fois. Fille de Théon d'Alexandrie, elle a grandi dans un milieu intellectuel où les grandes questions philosophiques et mathématiques étaient discutées sans cesse. Pourtant, malgré ses talents, elle a vécu une époque où les femmes étaient reléguées à des rôles bien loin de la science et de la philosophie. Et pourtant, elle a non seulement enseigné à l'école néoplatonicienne d'Alexandrie. Donc en bref, le néoplatonisme, c'est une philosophie qui affirme qu'une réalité suprême, nommée l'un, est à l'origine de tout et que l'âme cherche à y retourner. Mais elle a aussi été une conseillère de poids pour les figures politiques de son époque, comme l'empereur Théodose Ier et ou bien même l'évêque Cyril d'Alexandrie.
Ah oui, donc j'imagine qu'elle était bien vue par la société.
Ben voilà une question qui mérite réflexion. Malheureusement, son engagement pour la tolérance intellectuelle et la science n'a pas été apprécié par tous. En 415, Hypatie fut assassinée par une foule de fanatiques chrétiens, devenant ainsi un martyr du savoir. Passons maintenant à Samira Moussa, l'une des premières femmes égyptiennes à se distinguer dans le domaine de la physique nucléaire. Imaginez une époque où l'énergie nucléaire est un terrain exclusivement dominé par les hommes et une jeune femme, passionnée de science, décide de faire sa place. Samira Moussa ne s'est pas contentée d'effectuer des recherches sur l'énergie nucléaire. Elle a dédié sa carrière à la promotion de son utilisation pacifique, notamment pour apporter de l'énergie aux pays en développement. Ne vous étonnez pas si vous découvrez qu'elle fut l'initiatrice d'une conférence internationale sur l'énergie nucléaire à Caire en 1951. Une vraie visionnaire, non ? Mais son destin tragique, morte dans un accident de voiture aux États-Unis. Malgré cela, elle restera une figure inoubliée de certains et peut-être même de vous. Ensuite, il y a aussi Nawa Bera Moussa, une figure fondamentale dans la lutte pour les droits des femmes en Égypte, qui mérite aussi toute notre attention. Première femme à obtenir un diplôme d'enseignement, elle a milité pour que les femmes puissent accéder à l'éducation à l'égal des hommes.
Mais pourquoi une femme ne pourrait-elle pas être aussi brillante qu'un homme en tant que professeur ?
Eh bien justement, c'est ce qu'elle s'est demandé. Et c'est cette question qui a guidé son combat à travers les écrits et ses actions. Elle a ouvert la voie à des générations de femmes instruites et émancipées. Mais combien de femmes aujourd'hui se battent encore-t-elles pour les mêmes droits ? Ne devrions-nous pas apprécier plus le travail de ces pionnières ? Et enfin, Raga El Ebrachi, ingénieure spécialisée en sciences des matériaux. Elle a contribué au développement de nouvelles technologies industrielles et a influencé la recherche sur les matériaux de construction en Égypte. Non seulement elle a fait carrière dans un domaine où les femmes sont encore sous-représentées, mais elle a aussi eu un impact direct sur l'ingénierie moderne, dans un monde scientifique encore largement dominé par des hommes.
Comment cette femme a-t-elle réussi à s'imposer ?
C'est une question que l'on se pose souvent. Sa carrière montre que la compétence n'a pas de genre et que les femmes peuvent transformer l'industrie et les technologies de demain. Ces quatre femmes à elles seules ont chacune à leur manière repoussé les limites de la science et de la société. Elles ont défié les normes de leurs époques et se sont battues pour leurs passions, leurs idées et plus largement pour l'avenir des femmes dans la science. Leurs héritages nous rappellent que les femmes ont toujours joué un rôle essentiel dans le développement de l'humanité et qu'il est grand temps de le reconnaître. Mais alors que l'on célèbre ces grandes figures, que peut-on dire de l'avenir ? Combien de ces brillantes femmes attendent encore leurs heures sous les projecteurs de l'histoire ? La science ne doit-elle pas être un domaine où chaque talent, qu'il soit masculin ou féminin, trouve sa place ?
Voilà peut-être la question la plus importante. Merci Nahoras. Nous allons maintenant passer à notre incroyable interview de deux astrophysiciennes. Elles sont présentes avec nous afin de nous parler de leurs études et leur vie quotidienne en tant que femmes scientifiques. On sera également accompagné de Jawed, journaliste de notre émission depuis maintenant quelques temps. Il est maintenant l'heure de questionner notre première invitée, une astrophysicienne italienne qui a beaucoup étudié sur les étoiles et l'astronomie. Jawed, on te laisse la parole.
Bonjour, bonjour, vous êtes Margherita Hack, une ancienne astrophysicienne italienne qui a disparu après la publication de votre dernier livre. Et vous êtes maintenant de retour. Nous sommes heureux de vous interroger sur votre parcours de recherche. Pour commencer, la première question que se posent de nombreux auditeurs. Qu'est-ce qui vous a motivé à étudier l'astronomie ?
Je suis passionnée par le ciel depuis ma jeunesse. J'ai poursuivi des études approfondies en optique à Florence et grâce à une bourse, j'ai rejoint l'Observatoire d'Arcetri où j'ai commencé mes recherches en astrophysique, astronomie, radioastronomie et même la spectroscopie stellaire.
C'est impressionnant. Il est dit que vous avez également publié des travaux à cette époque. Est-ce vrai ?
Oui. Grâce à mes recherches à l'Observatoire d'Arcetri, j'ai eu l'opportunité de publier les mémoires de la Société astronomique italienne, qui parlent de mes découvertes et analyses sur les étoiles et l'espace.
Ah, je comprends mieux maintenant. Et avez-vous déjà fait des études en dehors de l'Italie, en France par exemple ?
Bien sûr. En 1952, je suis partie pour 6 mois à l'Institut d'astrophysique de Paris. Là-bas, j'ai travaillé avec l'astronome Daniel Chalogne sur un projet qui porte sur la classification des spectres stellaires.
Un projet qui a l'air très intéressant. Avez-vous déjà passé un concours pendant votre carrière d'astrophysicienne ?
J'ai réussi le concours de professeur adjoint d'astronomie et je suis donc devenue enseignante à l'université en Florence. En parallèle, j'ai passé un examen qui m'a permis d'être mutée à l'Observatoire astronomique de Merate, en Italie, où j'ai écrit mon ouvrage « Cours de physique stellaire » qui traite des étoiles et de l'astronomie.
Un parcours impressionnant. Êtes-vous déjà partie effectuer des recherches ailleurs que l'Italie et la France ?
Absolument. J'ai eu la chance de travailler à l'Observatoire d'Utrecht, aux Pays-Bas, avec l'astronome Minaert, un spécialiste de la structure des atmosphères stellaires. Puis, dans les années 60, j'ai donné des cours d'astrophysique et de radioastronomie à l'université de Bologne, en Italie, et aussi à l'université de Bari et même à Ankara, en Turquie.
On voit que vous avez beaucoup voyagé. Quel est le dernier endroit où vous avez décidé d'arrêter de travailler ?
Les États-Unis. J'ai eu l'honneur de travailler avec Otto Struve à l'université de Princeton. Nous avons collaboré sur un ouvrage intitulé « Stellar Spectroscopy », publié en 1962, qui explore en profondeur l'étude des spectres stellaires.
Intéressant. Dans votre biographie, il est dit que vous êtes également intéressé aux étoiles de type B. Quand avez-vous commencé à vous y intéresser ?
Dès que j'ai commencé à étudier l'astronomie. J'ai toujours été fascinée par les étoiles, mais j'ai préféré me concentrer sur ce type.
Mais pouvez-vous nous expliquer ce que c'est qu'une étoile de type B ?
Les étoiles de type BE sont en réalité des étoiles de type spectral B qui présentent des raies d'émission dans leur spectre et ces raies d'émission, elles sont généralement causées par la présence d'un disque de gaz en rotation autour de cette même étoile.
Très bien, merci. Mais à quoi est dû ce disque de gaz ?
C'est parce que les étoiles BE tournent extrêmement vite, bien plus rapidement que d'autres types d'étoiles. Cette vitesse de rotation, elle entraîne une éjection de matière équatoriale sous forme d'un disque qui entoure l'étoile. C'est ce phénomène qui génère les raies d'émission caractéristiques dans leur spectre.
C'est très bien expliqué, merci. Pourquoi avoir fait ce choix plutôt que d'étudier plusieurs types d'étoiles ?
En tant qu'astrophysicienne, j'ai fait le choix de me consacrer sur un seul type d'étoile parce que, au fond, toutes les étoiles ont des caractéristiques communes. Elles sont toutes composées principalement d'hydrogène et d'hélium. Et c'est cette composition qui permet la fusion nucléaire. Peu importe l'étoile que l'on étudie, on retombe toujours sur ces mêmes éléments fondamentaux.
Est-ce qu'on apprend davantage si on n'apprend qu'une seule chose à la fois ?
Évidemment. J'ai choisi de me concentrer sur un type d'étoile spécifique pour approfondir mes recherches, afin d'explorer des phénomènes complexes en détail et de saisir des subtilités souvent négligées lorsqu'on étudie plusieurs types d'étoiles.
Et quels conseils donneriez-vous aux jeunes qui veulent suivre cette voie ?
Si vous souhaitez devenir astronome, astrophysicien, astrophysicienne, enseignant ou enseignante en sciences, en physique ou même en chimie, ne vous limitez pas à ce que vos professeurs vous enseignent. Intéressez-vous à tout ce qui vous entoure. Posez des questions, explorez et observez le monde avec curiosité.
Ce sont de très beaux conseils. Et une dernière question, quel message voulez-vous faire passer aux jeunes d'aujourd'hui ?
Le secret du bonheur, c'est de faire ce que l'on aime. Et le secret de la réussite, c'est d'aimer ce que l'on fait. Lorsque l'on travaille avec passion, chaque défi devient une opportunité d'apprendre et de progresser.
Merci d'avoir accepté de répondre à ces questions.
C'était un plaisir pour moi d'y répondre et de pouvoir partager mon histoire.
À bientôt et au revoir.
Au revoir.
Voilà une interview avec des échanges passionnants entre le journaliste et notre astrophysicienne. Il est maintenant temps d'interviewer notre seconde invitée, une astrophysicienne algérienne qui s'est beaucoup intéressée sur les étoiles et la science.
Bonjour, vous êtes Chaïma Nabash, une astrophysicienne algérienne dont le parcours illustre parfaitement la passion et la persévérance nécessaires pour faire avancer la recherche scientifique. Vous avez fait une grande partie de votre carrière en France. Pouvons-nous parler de votre arrivée et de votre parcours universitaire ?
Eh bien déjà, merci pour tous ces compliments et bien sûr, je vais vous expliquer mon arrivée en France. Alors, quand je suis arrivée en France, j'ai poursuivi mes études de recherche à l'université Paris-Sud à Orsay où j'ai obtenu mon doctorat. Ce fut une expérience extrêmement enrichissante qui m'a permis de me spécialiser davantage en astrophysique.
Ce sont des débuts passionnants. Il est dit qu'après votre doctorat, vous avez intégré le CNRS. Comment s'est passée cette transition vers la recherche ?
Eh bien, travailler au CNRS était une sorte d'accomplissement, car c'est le Centre national de recherche scientifique. J'ai eu l'opportunité de collaborer avec de nombreux laboratoires renommés à l'international et de mener des recherches de pointe en cosmologie. L'un de mes moments forts de ma carrière a été mon travail à l'Institut d'astrophysique spatiale, où j'ai approfondi mes recherches sur le rayonnement des fossiles de l'univers.
C'est très intéressant. Et qu'est-ce qui vous a passionné dans l'étude sur le rayonnement fossile de l'univers ?
Le rayonnement fossile, aussi appelé fond diffus cosmologique, est un véritable témoin des premières étapes de l'univers. Quelques centaines de milliers d'années après le Big Bang, l'étudier permet de comprendre l'évolution de l'univers, la formation des structures cosmiques et même d'affiner nos modèles cosmologiques.
On voit que vous êtes très expérimenté sur le sujet. Et d'après vous, est-ce que l'astronomie peut rencontrer des difficultés ?
L'astronomie est un domaine fascinant, mais il demande beaucoup de patience et d'efforts. On ne trouve pas des réponses immédiatement. Il faut creuser parfois pendant des années pour trouver des réponses à des questions qui nous paraissent anodines. Et parfois, des années de travail sont nécessaires aussi avant une découverte qui va révolutionner la Terre. Il faut vraiment aimer ce que l'on fait pour avancer malgré les obstacles et jamais se démotiver.
Merci beaucoup pour ce conseil qui sera sûrement très utile pour les nombreuses jeunes femmes qui vous écoutent. Quelle est la chose la plus importante à savoir en travaillant sur l'astronomie ?
Il faut toujours être prêt à travailler en équipe. L'astronomie moderne repose sur la collaboration internationale avec des recherches venant d'horizons très différents. Partager ses idées, confronter ses hypothèses et apprendre des autres sont des aspects essentiels dans ce métier.
Vos paroles sont très belles et inspirantes. Avez-vous, au cours de votre carrière, été confronté à des discriminations liées à vos origines ou à votre genre ?
Eh bien, il serait mentir de dire que je n'en ai jamais reçu des discriminations. En effet, venir dans les années 90 en tant que femme racisée algérienne, c'est très compliqué. Comme beaucoup de fois, j'ai été confrontée à des jugements, que ce soit en raison de mon genre ou de mes origines. Il existe encore des préjugés dans le monde scientifique, parfois implicites, parfois plus visibles. Mais en tout cas, cela ne m'a jamais découragée et m'a toujours poussée à faire fermer la bouche à toutes ces personnes.
Et pour en arriver là, comment avez-vous fait face à ces obstacles ?
J'ai choisi de ne pas me laisser freiner et d'en faire mon moteur. En effet, les personnes qui vous haïssent le plus peuvent vous donner le plus d'énergie pour réussir. Plutôt que de me laisser décourager, je me suis concentrée sur ce que je pouvais contrôler, la qualité de mon travail. J'ai aussi beaucoup compté sur le soutien de mes collègues et mentors qui croyaient en moi. Avoir un entourage bienveillant et encouragé par ses pairs est essentiel dans ces moments-là.
Pensez-vous que les choses évoluent aujourd'hui ?
Oui, il y a certaines prises de conscience et des progrès indéniables. Malgré tout, il existe beaucoup de racisme encore et de sexisme envers les femmes. Mais de plus en plus d'initiatives sont mises en place pour encourager la diversité dans les sciences. Et on voit émerger davantage de modèles féminins et issus de différentes origines. Mais il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. L'inclusivité ne doit pas être un simple discours, mais une réalité dans toutes les instituts scientifiques.
Et quelles qualités faut-il pour pouvoir obtenir une carrière en astronomie ?
Eh bien, il y a trois qualités qui me semblent indispensables. La première, c'est la persévérance, car en effet, les études scientifiques sont des très longues études et très denses. Le parcours scientifique est semé de défis, d'échecs et d'imprévus. Il faut savoir rester concentré malgré les obstacles, ne pas se décourager face aux difficultés et toujours avancer avec détermination.
Et quelle est la deuxième qualité à avoir ?
La curiosité intellectuelle. C'est elle qui me pousse sans cesse à me poser de nouvelles questions et à avancer dans mes recherches et à approfondir mon travail jusqu'à qu'il soit parfait. Comprendre l'univers et à apprendre toujours plus. Sans curiosité, on ne peut pas avancer en science, car chaque découverte soulève de nouvelles interrogations. Il faut aimer explorer l'inconnu et remettre en question ce que l'on croit déjà savoir. C'est comme ça qu'on avance et c'est comme ça qu'on réussit.
Et pour finir, la dernière ?
La rigueur. Eh bien, cette qualité me vient en première car la rigueur, c'est la chose la plus importante dans le domaine scientifique. Elle est essentielle pour mener des recherches solides et crédibles. En science, on ne peut pas se fier à l'intuition seule. Il faut avoir des preuves et des méthodes précises et une analyse critique des résultats. Être rigoureux, c'est s'assurer que chaque conclusion repose sur des bases fiables et reproductibles.
Nous arrivons à notre dernière question, Madame Labache. Quel conseil donneriez-vous aux jeunes qui rêvent de suivre une voie similaire ?
Eh bien, qu'est-ce que je pourrais leur dire ? Eh bien, je leur dirais de rester curieux, de ne pas hésiter à poser des questions et d'aller au bout de leur passion. Même lorsque le chemin semble difficile, la recherche est un domaine exigeant, mais chaque découverte, chaque avancée, aussi minime soit-elle, est une avancée énorme pour le monde et pour l'homme. Et c'est une récompense incroyable de rendre le monde plus cultivé et de rendre certaines personnes plus intelligentes et plus bienveillantes.
Bien, merci beaucoup d'être venu à notre émission.
Pas de souci, franchement, ça m'a fait très plaisir. Merci, bonne journée.
Voici une interview vraiment passionnante entre notre journaliste et notre deuxième invité. Nous arrivons maintenant à la fin de notre émission. Je remercie Achini pour la réalisation, Nour et Naïla pour avoir joué le rôle d'invité, Naoras en tant que chroniqueur et enfin Jawed en tant que journaliste. Merci et au revoir, à la semaine prochaine. Nous vous souhaitons une agréable journée. C'était Isra dans le savoir de la Méditerranée. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir la team.
16h10 et vous écoutez Radio Campus Paris. Nous sommes le 1er avril 2025 et nous venons du lycée Guy de Maupassant à Colombes. Nous avons été invités par l'avant-scène Théâtre de Colombes pour assister à une pièce de théâtre intitulée Cosmos. Cette pièce met en scène cinq femmes qui rêvent de voyager dans l'espace. À la suite de cette invitation, le théâtre de l'avant-scène nous a offert l'opportunité pour nous enregistrer. C'est parti pour cette émission.
À vous les studios, les ateliers de Radio Campus Paris.
Lors de cette première interview, Shaina et Capucine auront l'honneur d'interviewer le directeur de la communication à l'Agence spatiale européenne, Jules Grandcyr, sur le spectacle et sur son métier. Shaina, Capucine, c'est à vous.
Bonjour à tous, nous voilà aujourd'hui avec Jules Grandcyr, responsable de la communication à l'Agence spatiale européenne. Bonjour Monsieur Grandcyr.
Bonjour.
Pour m'accompagner durant cette interview, l'influenceuse Shaina sera avec moi, créatrice de contenu sur les spectacles vivants. Elle posera les questions de ses internautes.
Bonjour, merci de m'accueillir aujourd'hui.
Shaina, vous avez pu assister à la pièce de théâtre Cosmos le vendredi 7 mars. Pouvez-vous nous donner votre avis ?
Mon avis sur la pièce, j'ai trouvé que la pièce était intéressante. Le thème des droits des femmes dans le milieu spatial, c'est un thème qui est rarement abordé. Donc je trouvais ça important justement, et c'est pour ça que je l'ai partagé sur mes réseaux.
Monsieur Grandcyr, vous avez également assisté à la représentation de Cosmos. Est-ce que vous pourriez nous donner votre avis ?
Alors, Shaina a raison déjà, c'est un thème rarement abordé, les femmes et le spatial, notamment au théâtre. Ce qu'il faut dire sur la pièce, je pense, c'est d'abord que c'est une très très bonne pièce de théâtre. Avant d'être un thème vertueux, il y a de tout dans cette pièce. Il y a une mise en scène époustouflante, il y a du spectacle, il y a le jeu des actrices qui est absolument prodigieux, il y a du cirque. C'est, voilà, on vibre avec elle. C'est autre chose que vraiment raconter l'histoire des Mercury 13, mais c'est vraiment les faire vivre, je pense, aux spectateurs, leurs émotions, leurs frustrations, leurs rêves et leurs batailles, finalement.
Monsieur Grandcyr, dans la pièce de théâtre, nous voyons les Mercury 13 passer différentes épreuves pour partir dans l'espace. Est-ce que les épreuves pour y aller sont aussi difficiles que dans la réalité ?
Oui, alors, la réalité, ça dépend de quelle réalité on parle. Si on parle de la réalité des années 60, puisque c'est ce que raconte la pièce, il faut bien se rendre compte qu'à l'époque, personne n'était jamais allé dans l'espace. D'accord ? Donc on ne savait même pas si dans une capsule spatiale en orbite autour de la Terre, on pouvait survivre. On ne le savait pas. Et donc, dans le doute, on a décidé de prendre les êtres humains qui étaient les plus résistants, donc physiquement, mais aussi résistants au stress, et puis en gros qui n'avaient pas peur de mourir en mission. Et c'est comme ça qu'on a pris des astronautes, on a sélectionné des astronautes parmi une communauté déjà très aguerrie à tout ça, qui étaient les pilotes d'essai. Et en plus de leur qualification de pilote d'essai, on leur a fait passer toute une batterie de tests extrêmement compliquée, extrêmement dure, et pour être sûr qu'ils puissent vivre ou survivre, ou en tout cas les maximums de chances de survivre dans l'espace. Et ça, c'était la réalité des années 60. D'ailleurs, c'est intéressant de remarquer, comme c'est raconté dans la pièce, que les femmes qui ont passé ensuite ces mêmes tests absolument drastiques ont eu des résultats même meilleurs que les hommes. La réalité d'aujourd'hui, elle est différente. Pourquoi ? D'abord parce que les missions spatiales sont différentes. On sait maintenant qu'on peut survivre dans l'espace, et donc on est à une étape où on ne veut plus seulement prouver qu'on peut vivre dans l'espace, survivre, mais aussi travailler, faire de la science, coopérer. Et donc, comme la nature des missions est différente, on va chercher des gens différents et on va leur faire passer des tests différents pour les sélectionner. Donc, voilà, si je peux répondre à ta question avec une pirouette en disant que la réalité des années 60, oui, c'était aussi difficile que ce qu'on voit dans la pièce. La réalité d'aujourd'hui, elle est un petit peu différente parce que les missions sont différentes.
Ok. Est-ce qu'aujourd'hui, les femmes ont un niveau supérieur aux hommes, comme avant ?
Dans la vie, de manière générale, je pense que les femmes ont un niveau supérieur aux hommes. Si on parle de compétences générales, oui. Maintenant, plus sérieusement, nous, on a fait une sélection à l'ESA en 2022, on a sélectionné des astronautes. On avait 25% de candidates féminines pour à l'arrivée 50%, à peu près 50% de femmes sélectionnées sur le groupe d'astronautes. Donc ça veut dire qu'elles ont légèrement surperformé. Donc je dirais qu'il n'y a pas de généralité. Je pense qu'aujourd'hui, astronautes hommes, astronautes femmes, on est à peu près sur le même niveau de compétence. Il n'y a pas de différence majeure.
Mes internautes voudraient savoir si, d'après votre expérience, est-ce que cette pièce de théâtre s'apparente à la réalité ?
Moi, je ne suis pas historien de l'espace. Je connais l'histoire des Mercury 13, bien sûr. Je n'ai pas vu dans la pièce d'aberration historique. Tout ce qui est raconté, à mon sens, est correct. Il y a même des enregistrements. Tu t'en souviens, on a vu la pièce ensemble. Il y a des enregistrements historiques qui sont rediffusés, retraduits, remis en scène. Donc, de ce que j'ai pu en juger, oui, c'est une pièce véridique. Maintenant, j'imagine que la pièce, elle a une ambition autre que être un simple documentaire sur cette histoire. Il y a des documentaires sur les Mercury 13. D'ailleurs, tu peux dire à tes internautes d'aller les voir. Il y en a plein de très bonne qualité. Cette pièce, à mon sens, elle permet aux spectateurs qui étaient présents ce soir-là de revivre les émotions de ces combattantes, finalement, pour les droits des femmes. Et en ça, c'est presque encore plus fort qu'un documentaire. Mais c'est ça. C'est à ça que ça sert le théâtre aussi.
Ouais, c'est ça la beauté du théâtre.
Ah ouais.
Pourriez-vous nous expliquer en quoi consiste votre métier dans l'Agence spatiale européenne et pourquoi vous avez choisi ce métier ?
Alors, mon métier à l'agence, c'est de faire de la communication. Alors, pourquoi on communique à l'Agence spatiale européenne ? D'abord, c'est une sorte de responsabilité. Les missions de l'Agence spatiale européenne sont payées par les contribuables européens. Ça veut dire... vous, vos parents, les gens qui travaillent, les gens qui payent des impôts, financent les missions de l'Agence spatiale européenne. Et ça veut dire que la moindre des choses, c'est de leur raconter ce qu'on fait avec cet argent. Et aussi ce qu'on veut faire avec ces contributions dans l'avenir. Et donc mon travail, c'est justement ça. C'est d'expliquer aux gens ce qu'on fait, de les embarquer dans nos missions, leur raconter nos missions, et de leur expliquer quels sont les bénéfices de cette aventure spatiale. Donc, pourquoi j'ai fait ce métier ? Moi, un peu comme tout le monde, quand j'étais enfant, j'aimais beaucoup regarder le ciel. L'espace, c'est quelque chose qui m'intéressait. Et je voulais travailler dans un espace européen, ou en tout cas international. Ça, c'était un peu mon ambition quand j'étais allé à l'école, quand j'étais à l'université. Et puis... j'avais fait une maîtrise de littérature, donc j'avais un premier diplôme de littérature, et j'étais en train de faire un master de management des administrations, un MBA, et je suis tombé amoureux d'une astrophysicienne qui ne me prenait pas trop au sérieux, parce que bon, les astrophysiciens, c'est surtout l'astrophysique qui est sérieux, le reste c'est... voilà. Et donc voilà, je décidais de faire un stage à l'Agence spatiale européenne avec des astronautes, à Cologne en Allemagne.
Ok.
Et en me disant que peut-être qu'elle allait me prendre un peu plus au sérieux.
Mes internautes ont fait quelques recherches sur vous et ont vu que vous teniez un podcast. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus ?
Oui, le podcast, ça s'appelle « Elles font l'espace ». J'avais un premier podcast qui s'appelait « La fabrique de l'espace » sur une radio nationale. Et l'idée, c'était de faire découvrir des gens qui sont partie prenante de l'aventure spatiale, mais qui ne sont pas hyper connus. Et on avait... 20% de femmes et le reste c'était que des hommes. Et je trouvais que ces épisodes étaient particulièrement forts et je me suis dit, ok, bon, on pourrait faire une saison 2 que avec des invités féminines. Et finalement, avec la radio, on n'est pas vraiment tombé d'accord là-dessus. Donc j'ai décidé de monter un podcast séparé, complètement nouveau, tout seul, enfin tout seul, en indépendant, on va dire, et qui s'appelle Elles font l'espace et qui a vu le jour au mois d'octobre. Et dans lequel je reçois et j'écoute des femmes qui travaillent dans le milieu spatial, que ce soit des astronautes, des ingénieurs, des astronomes, des coachs d'astronautes, des astrophysiciennes, des physiciennes quantiques, qui viennent nous parler de leur job dans le spatial, de comment elles en sont arrivées là. Et on apprend des choses sur le spatial, bien sûr, mais aussi on découvre une galerie de portraits de femmes qui, aujourd'hui, font l'espace.
Ok, ben, super.
Super,
super.
Merci à vous, Monsieur Grancier, d'être venu et merci à Chalina de m'avoir accompagnée pour cette interview.
Merci à vous deux.
Merci.
Place à la pause musicale.
C'était le générique de New York Unité Spéciale. Suite à la première interview, nous allons procéder à la deuxième interview qui mettra en lumière Noelia et Olive. Dans cette étape, elles auront l'occasion d'interviewer Clélia Tambini, médiatrice au sein de l'avant-scène.
Merci Kenza. Bonjour Clélia, bonjour Olive,
bonjour
cher public.
Bonjour.
Nous nous retrouvons donc avec la médiatrice du théâtre de l'avant-scène ainsi que la célèbre influenceuse connue pour sa passion pour la culture générale, Olive. Bonjour Olive.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau.
Merci à toi.
Alors dites-moi, vous avez vu la célèbre pièce de théâtre Cosmos et qu'en avez-vous pensé ?
Alors oui, j'ai beaucoup aimé cette pièce car elle était très réaliste et la mise en couleur était très captivante, ce qui m'a plutôt transportée et m'a fait me sentir intégrée à la scène.
Je vois. Et d'ailleurs, vos abonnés vous ont posé de nombreuses questions, n'est-ce pas ?
En effet.
Clélia, vous êtes avec nous aujourd'hui pour pouvoir répondre à nos questions.
Tout à fait.
Clélia, quel était votre rôle en tant que médiatrice au théâtre ?
Alors, mon rôle, c'est de mettre en lien les publics et les spectacles et les artistes, notamment les publics groupes. Donc, ça correspond aux scolaires, aux associations. On travaille aussi avec des hôpitaux, avec des prisons. Le but, c'est de faire venir ces publics-là qui, peut-être, ne viendraient pas tout seuls au théâtre et en proposant des projets d'ensemble où ils vont pouvoir rencontrer des artistes, où ils vont pouvoir participer à des ateliers de théâtre, de cirque, de danse, de pratique, que l'expérience, elle soit un petit peu plus complète que juste la venue au théâtre. Donc voilà, mon rôle, c'est vraiment de faire du lien.
Ok, d'accord.
D'accord. Mais pourquoi avez-vous choisi ce métier ?
J'ai choisi ce métier un peu grâce au stage que j'ai fait pendant mes études, parce que je ne savais pas que ce métier-là existait avant d'être en études supérieures. Moi, j'ai toujours beaucoup aimé la transmission. J'ai longtemps voulu être professeure. Et en fait, après une expérience justement dans l'enseignement, je me suis dit que je préférais pouvoir transmettre des choses en lien avec la culture, à l'origine plutôt les musées. Et puis finalement, au fur et à mesure de mes stages et de mes expériences, je me suis retrouvée à faire de la médiation plutôt dans des théâtres. Mais c'est, voilà, c'est un peu comme ça que j'y suis arrivée tranquillement.
Et justement, par rapport à cela, comment contribuez-vous au spectacle et quel était votre rôle dans la pièce ?
Alors, à proprement parler, moi, je ne contribue pas au spectacle parce que quand j'arrive, le spectacle, il est déjà créé, il est déjà programmé aussi dans notre salle. J'arrive un peu après la bataille. Mon rôle, c'est de faire venir le public déjà en ciblant les bons publics pour les bons spectacles. Donc, à l'avant-scène, on a une salle qui fait quasiment 1000 places. Donc, il faut remplir cette salle 50 soirs par an. Et du coup, par exemple, sur Cosmos, je savais que c'était un spectacle que je pouvais proposer plutôt à des lycéens qu'à des collégiens pour plein de raisons, la durée, les contenus. Donc, je cible comme ça la programmation et ensuite je prends contact avec mes relais, les gens que je connais dans les différentes structures avec lesquelles on travaille pour les convaincre de venir au théâtre, voire de monter des projets autour comme ce qu'on est en train de faire là maintenant.
Et d'ailleurs, en parlant du spectacle, quel a été votre moment préféré au théâtre et pourquoi ?
Et dans le spectacle, si on parle vraiment que du spectacle, mon moment préféré, je crois que c'est la fin. J'ai tout aimé du spectacle parce que je l'ai trouvé vraiment très joli. Je l'ai vu pour la deuxième fois à l'avant-scène et il m'a laissé le même effet. Mais je trouve que la scène de fin, elle est assez incroyable de voir s'élever l'astronaute grâce à cette corde et de qu'elle, pour symboliser qu'elle monte en fait un peu dans l'espace. Mais nous, chez nous, elle monte sous les cintres au plafond. Je crois que c'était une très très belle scène de fin.
Ok, et donc, selon vous, avez-vous atteint vos objectifs professionnels ?
J'ai pas d'objectif professionnel, je pense. Je crois que je suis juste contente de faire quelque chose que j'aime bien, qui me plaît, qui me motive. C'est ce que je fais. Donc, c'est dans ma tête, oui, j'ai atteint mon objectif professionnel. Après, voilà, je sais pas où je serai plus tard et comment je ferai de la médiation. Mais là, c'est très bien.
Ok. Super. Et pour finir, étant plus jeune, avez-vous pour ambition d'être médiatrice au théâtre ?
Non, c'est ce que je disais, je ne connaissais pas l'existence de ce travail. Je pense que, étant plus jeune, comme beaucoup d'enfants, moi je rêvais d'être chanteuse, probablement.
Ok. Bon, merci Olive.
Merci
Clélia.
Merci beaucoup
d'avoir accepté mon invitation. Je suis très ravie de vous avoir rencontrée et je vous souhaite de passer une agréable journée.
Toi de même, merci.
Merci, bonne journée.
Au revoir.
Je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers l'association pour nous avoir chaleureusement accueillis et pour nous avoir permis de découvrir ce nouvel univers. Je souhaite également remercier les journalistes ainsi que Soukaina, qui était la réalisatrice, pour leur contribution précieuse. Merci, au revoir.
Il est 16h52 à l'antenne de Radio Campus et on va vous présenter une émission. C'est parti. Bonjour et bienvenue auditeurs et auditrices à l'antenne de Radio qui veut gagner deux oreilles, pas des millions. Aujourd'hui, avec mes collègues toujours en forme, on va vous présenter un sujet qui nous tient à cœur. Les inégalités entre les hommes et les femmes dans le sport. On commence maintenant avec la chronique de Dina. C'est parti.
À vous les studios, les ateliers de Radio Campus Paris.
Pourquoi les JO étaient sexistes en 1912 ? Les Jeux Olympiques de 1912 étaient profondément marqués par le sexisme, notamment par l'exclusion des femmes dans plusieurs disciplines. À cette époque, la société considérait encore que les femmes n'avaient pas leur place dans les sports de haut niveau, jugés trop physiques ou dangereux pour elles. Seules quelques épreuves étaient accessibles et elles étaient largement minoritaires dans la compétition. Cette inégalité reflétait une vision patriarcale du sport, où les performances féminines étaient dévalorisées et leur participation jugée secondaire. Le sexisme JO de 2024, malgré un siècle d'évolution et les avancées en matière d'égalité, les JO de 2024, encore des formes de sexisme. Tout d'abord, la question des tenues imposées aux athlètes féminines est un sujet de débat. Comme le mentionne le document, certaines tenues sont critiquées par leurs effets de sexualisation, mettant en avant le corps des sportives plutôt que leur performance. Cette contrainte vestimentaire perpétue l'idée que l'apparence des femmes est plus importante que leur capacité athlétique. Ensuite, le VSS, violence sexiste et sexuelle, reste une problématique majeure. De nombreuses femmes victimes de violences sexuelles ou de mutilations dans des zones de conflit sont mises en avant durant les JO de 2024. Cependant, cette mise en lumière est parfois perçue comme une récupération symbolique plutôt qu'un réel engagement pour lutter contre ces violences. Enfin, la médiatisation du sport féminin est un autre enjeu majeur. Comme l'indique le rapport du HCE 2025, le sport féminin bénéficie d'une couverture médiatique bien moindre que son équivalent masculin. Par exemple, le football féminin représente seulement 8% des articles consacrés au football. En général, de plus, la position de ces articles dans les journaux est souvent reléguée au second plan, de ce qui reflète un manque de reconnaissance et d'intérêt des médias pour les performances des femmes. Si les JO de 2024 ont fait des progrès en matière d'égalité des sexes, des inégalités persistent. La question des tenues, la médiatisation et la prise en compte des violences faites aux femmes montrent que le sport, et notamment les Jeux Olympiques, restent un espace où le sexisme est encore présent. Il est donc essentiel de poursuivre les efforts pour offrir aux athlètes féminines une reconnaissance équivalente à celle de leurs homologues masculins.
Merci Dina pour cette chronique parfaite. Tout de suite, une petite pause musicale. C'était de Cacophonie de Paris Paloma. Nous allons donc passer au quiz avec Raphaël et les deux invités, Yanis B et Yanis S. C'est parti.
Bonjour et bienvenue dans notre émission Qui veut gagner 2 euros. Très bien messieurs, sans plus tarder, nous allons donc passer au quiz. Première question, jusqu'en 1900, pourquoi les femmes ne pouvaient-elles pas participer aux Jeux Olympiques ? Réponse A, car elles n'en avaient pas d'envie. Réponse B, car la loi l'interdisait. Ou réponse C, car les femmes dans le sport faisaient l'objet de critiques, de haine et de dévalorisation.
C'est dur, mais je dirais la réponse B.
Pour moi, je dirais la réponse C.
C'était la réponse C. Bien joué, Yanis B. Tout de suite, la seconde question. En tant que loisir, quel sport a été autorisé en premier aux femmes ? Réponse A, le football. Réponse B, le tennis. Ou réponse C, la course à pied ?
La course à pied.
Le football.
Et c'est un deuxième point pour Yanis B. Bravo.
Bravo.
Merci.
Maintenant, troisième question. En général, quel est le sport le plus pratiqué au monde par les femmes ? Réponse A, l'équitation. Réponse B, la gymnastique. Réponse C, la marche et randonnée.
Je pense que c'est la question B.
Ok. Et vous, Yanis? B.
Je pense que c'est la réponse B.
Oh, quel dommage. Personne n'a trouvé la bonne réponse. C'était la réponse C, la marche et randonnée. Place à l'avant-dernière question. Pourquoi la plupart des compétitions n'autorisent-elles pas la mixité homme-femme? Réponse A. Cette mixité est considérée inéquitable. Réponse B. Car les femmes sont souvent rabaissées dans le sport. Ou réponse C. Car certains sports ne sont faits que pour les hommes et que les femmes ne devraient pas les représenter.
Je sais, réponse A.
Vous êtes sûr?
Oui.
Et vous, Yanis B?
J'hésite entre la réponse B et C. Je choisirai la réponse C.
Très bien. Le point est accordé à Yanis S.
Félicitations.
Qui a trouvé la bonne réponse.
Merci. Moi bien, merci à vous.
Merci.
Enfin, dernière question. Pourquoi les femmes dans le sport ont moins de visibilité médiatique que les hommes dans le sport? Réponse A, car elles ont un moins bon niveau. Réponse B, car les médias ne sont pas tous inclusifs. Ou alors, car montrer une femme dans un média fait moins d'audience.
Question un peu compliquée celle-là, c'est parti.
La réponse B.
Et vous?
Excusez-moi, pouvez-vous répéter la question?
Pas de problème. Pourquoi les femmes dans le sport ont moins de visibilité médiatique que les hommes dans le sport? Réponse A, car elles ont un moins bon niveau. Réponse B, car les médias ne sont pas tous inclusifs. Réponse C, car montrer une femme dans un média fait moins d'audience.
Je pense que c'est la réponse C.
Malheureusement, personne n'a trouvé la réponse. C'est la réponse
évidemment.
B.
C'est pas grave, c'est pas grave.
Merci à tous de m'avoir laissé participer à cette émission.
Merci à vous, surtout.
Et merci pour les 2 euros. Par contre, Yanis S, je suis désolé pour toi.
C'est pas grave.
Et comme je suis généreux, je coupe la poire en deux et je te donne 1 euro.
Merci Yanis. Oh. Oh, on peut l'applaudir. Quelle générosité de ta part. Félicitations.
Yanis S, en plus de repartir avec 1 euro, vous repartez avec un magnifique pins. Cool. Vous l'avez donc compris, c'est la fin du quiz. Merci de nous avoir écoutés et merci également à l'équipe et aux invités pour leur investissement.
Donc c'était le quiz. Merci de nous avoir écoutés à l'antenne. Il y avait la chroniqueuse Dina, le réalisateur Jerry, les deux invités du quiz, Yanis, le journaliste Raphaël et moi-même à l'animation. Merci à vous, auditeurs, auditrices. Passez une agréable journée. C'était Qui veut gagner des euros et pas des millions à l'antenne. Merci encore à vous, on peut s'applaudir une dernière fois.
Bonjour à tous, bienvenue sur le thé du jour. Nous allons aujourd'hui aborder comme sujet les femmes, car beaucoup le savent, les femmes se battent chaque jour pour leurs droits et leurs normes auprès de la société. C'est donc pourquoi nous allons poursuivre en parlant du fameux film nommé « Les figures de l'ombre ». Sorti en 2016, ce célèbre film a été très apprécié par les spectateurs. Poursuivons avec la bande-annonce.
Les Russes ont un satellite espion qui prend des photos et Dieu sait quoi encore. Mettez-nous là-haut. On ne peut pas justifier un programme spatial qui ne met rien dans l'espace.
On va finir chômeuse si on continue dans cette espèce de charrue.
40 km, t'as qu'à les faire à pied.
Ou tu prends le bus, mais à l'arrière.
Nous allons envoyer un homme dans l'espace.
Si on le ramène trop tôt, il sera carbonisé dans l'atmosphère.
J'ai besoin de calculs qui n'existent pas encore. Trouvez-moi un mathématicien, avant que les Russes plantent leur drapeau en plein milieu de la Lune.
Vous avez vos papiers?
NASA, monsieur l'agent.
Eh ben, je savais pas qu'ils engageaient des
femmes, il y en a beaucoup.
Nous serons donc en présence d'une actrice et du réalisateur Taraji P. Henson et Théodore Melfi. Pour ce faire, les questions seront posées dans deux interviews, celui de l'actrice et celui du réalisateur. Je vous laisse la parole.
Bonjour Théodore Melfi.
Bonjour.
Pouvez-vous me dire ce qui vous a inspiré à adapter l'histoire de ces femmes extraordinaires?
Je voulais montrer le racisme. Vous avez déjà pu le voir au cinéma avec des croix brûlées, des maisons saccagées, sur des films qui parlent de la guerre de sécession, mais je voulais le montrer sous une autre forme.
D'accord. Comment avez-vous choisi le casting pour représenter des personnages aussi emblématiques?
je me sens tiré des meilleurs pour ce film. Vous devez déjà connaître Taraji P. Henson grâce à la série Person of Interest, la talentueuse Octavia Spencer, reconnue grâce à son rôle dans La couleur du sentiment, qui aborde d'ailleurs des mêmes thématiques. Janelle Monae, qui est à l'origine chanteuse et compositrice, mais qui fait ici ses débuts dans le cinéma.
Intéressant. Quel défi avez-vous rencontré lors de la réalisation du film ?
Je n'ai pas rencontré de problème, si ce n'est le stress que j'ai eu par rapport au retour du film. À part cela, le tournage s'est très bien passé.
Incroyable. Y a-t-il des scènes ou des moments du film qui sont particulièrement significatifs pour vous ?
Une scène particulièrement significative est celle où le personnage de Katherine Johnson arrive trempé dans ce bureau car les toilettes pour réserver aux personnes noires sont trop loin. Et lorsqu'on lui demande où elle était et pourquoi elle arrive tout le temps en retard, elle craque. Cette scène montre bien la rage qu'elle a depuis toutes ces années.
Comment le film a été reçu par les critiques et le public ?
Pour être honnête, je m'attendais à un retour négatif de la part du public, car lorsqu'on aborde ces thématiques, le racisme en général, tout simplement, il y a toujours une partie du public qui va être mécontente. Mais le film a été très bien reçu et a eu de bonnes stats.
Et pour finir, quel thème universel espériez-vous que votre film aborde au-delà de l'histoire scientifique des femmes noires dans la NASA ?
Bien évidemment de la ségrégation dans les années 60, car c'est une période très sombre des États-Unis et je voulais revenir là-dessus. Et aussi de la misogynie et du sexisme, car il ne faut pas oublier qu'en plus d'être noire, ce sont des femmes.
Je suis d'accord avec vous. Merci à Théodore Melfi d'être venu. C'était un plaisir de vous rencontrer.
Le plaisir est partagé.
Voilà, c'est réglé. Il n'y a plus de salle de bain pour les Noirs. Il n'y en a plus pour les Blancs non plus. Juste de bonnes vieilles toilettes. Alors allez là où vous voulez. De préférence près de votre bureau. Ici, à la NASA, tout le monde pisse de la même couleur.
Je vais passer à l'interview avec Taraji P. Henson. Qu'est-ce qui vous a attiré dans le rôle que vous avez joué ?
J'ai été particulièrement frappée par l'histoire de Katherine Johnson, une femme brillante dont on ne parlait presque pas. J'ai voulu lui rendre justice et faire connaître son incroyable contribution à la NASA.
Et y a-t-il des moments sur le plateau qui vous ont particulièrement marqué ?
Je déteste les maths, donc ça n'a vraiment pas été facile pour moi d'apprendre et de retenir toutes ces formules de maths et le langage scientifique qui va avec. Également, lors de la fameuse scène des toilettes, j'ai dû courir toute la journée en étant trempée et mouillée beaucoup de fois, mais à la fin, la scène et les résultats sont très marquants et c'est devenu une scène très appréciée du public et de moi-même.
Je vous suis complètement. Quel message souhaitez-vous transmettre au public à travers votre performance ?
Je pense que le message général du film, c'est que quand on fait de la science, on doit mettre ses différences de côté en tant qu'humain. Parce que notre esprit n'a pas de couleur. Et à mon avis, il ne devrait pas y en avoir forcément d'histoire, de racisme ni de discrimination quand on calcule.
Très beau message.
Merci.
Avez-vous ressenti une pression particulière en jouant un rôle basé sur une personne réelle ?
Oui, j'en ai beaucoup ressenti. Katherine Johnson était encore en vie et je voulais l'honorer. Pour moi, c'était une grande responsabilité de représenter son intelligence, sa force et son humilité avec justesse. Quand Théodore, notre réalisateur, m'a dit que c'était une histoire vraie, j'ai tout de suite voulu rencontrer celle que j'incarnais. Katherine est vraiment une femme exceptionnelle et je voulais entendre son expérience personnelle pour être aussi authentique que possible quand j'ai joué son rôle.
C'est beau. Comment le film a-t-il influencé votre propre perception des femmes dans la STEM, sciences, technologies, ingénierie et mathématiques ?
Avant ce film, je ne réalisais pas à quel point les femmes, et en particulier les femmes noires, avaient joué un rôle si crucial dans ces domaines. On entend souvent parler des astronautes, des grandes figures masculines de la conquête spatiale, mais on ne parle pas assez des mathématiciennes et des ingénieurs et des scientifiques derrière ce travail qui ont rendu ces missions possibles. Je pense qu'il y a également beaucoup de femmes dans l'histoire, dans le monde de la STEM, qui ont été effacées ou ignorées, car elles sont des femmes ou bien des simples femmes noires. Je pense notamment à la biologiste Rosalind Franklin et la physicienne Liz Meitner. Ce film m'a ouvert les yeux et il m'a donné envie d'encourager les jeunes filles à poursuivre des carrières dans les STEM et ne pas se limiter à des barrières sociales ou stéréotypes.
C'est intéressant. Et pour finir, quelle émotion avez-vous ressentie en jouant des scènes qui mettent en lumière les luttes et les triomphes de votre personnage, même si vous l'avez déjà dit précédemment ?
Pour moi, ce fut un tourbillon d'émotions. Certaines scènes étaient très touchantes à jouer, comme les moments de triomphe incroyables de Catherine, comme par exemple lorsqu'elle démontre son génie mathématique devant ses collègues masculins. J'ai ressenti une immense fierté en jouant ces moments, car ils montraient non seulement sa force, mais aussi celle de toutes les femmes qui ont dû se battre jusqu'au bout pour prouver leur valeur.
Intéressant encore une fois.
Merci. Merci.
C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup Mélinda pour tes questions. Merci au public et merci également au réalisateur et à l'actrice d'avoir accepté notre invitation. Nous vous remercions de nous avoir écoutés et on vous dit à la prochaine chez Thé du jour.
Nous sommes le 1er avril, il fait actuellement 14 degrés, le temps est au rendez-vous. Bonjour à tous, c'est Christéol au micro sur Radio Campus Paris. Nos invités du jour sont Jules Grandcyr, responsable de la communication à l'ESA, Clément et Louane qui participeront au quiz, ainsi que Adama qui nous racontera sa chronique. Nous allons donc commencer par écouter la chronique d'Adama. Monsieur, allez-y.
Bonjour, je m'appelle Adama, je travaille à l'Agence spatiale européenne et je vais vous parler des compétences pour être astronaute. Chaque astronaute suit un programme physique exigeant pour maintenir une excellente condition musculaire et cardiovasculaire. Il s'entraîne en piscine géante équipée de combinaisons spatiales pour simuler les sorties dans l'espace en apesanteur. Il s'effectue des vols paraboliques permettant de vivre de courtes périodes en gravité zéro afin de s'habituer aux sensations en orbite.
Mais est-ce la même chose dans chaque pays ?
Chaque astronaute collabore internationalement. Les missions spatiales sont le fruit d'un travail entre plusieurs agences spatiales, ESA, Agence spatiale européenne, la NASA, Agence spatiale américaine, Roscosmos, etc. et des équipes scientifiques du monde entier.
Et est-ce que le niveau d'études est élevé ?
Pour être astronaute, il faut un bac plus 5 minimum requis dans les disciplines telles que physique et sciences de l'espace, sciences de la Terre et planétologie, c'est-à-dire études des planètes, biologie et médecine, mathématiques et ingénierie spatiale, informatique et robotique.
Mais quels sont les critères ?
Les astronautes doivent supporter des conditions extrêmes comme l'apesanteur, les accélérations brutales et l'isolement prolongé. Ils suivent des tests physiques rigoureux pour évaluer leur endurance et leur force musculaire, leur résistance au stress et aux environnements hostiles, leur capacité à gérer le manque de sommeil et les conditions de vie en confinement. Un astronaute doit maîtriser un large éventail de compétences, notamment l'informatique et la programmation pour gérer les systèmes embarqués, la mécanique spatiale et électronique pour assurer la maintenance des équipements, les sciences médicales pour surveiller la santé des équipages en mission, les protocoles de recherche scientifique pour mener des expériences en microgravité, une maîtrise des langues étrangères. L'anglais est obligatoire car c'est la langue du travail principal des agences spatiales. La connaissance du russe est un atout majeur, notamment pour les missions à bord de la Station spatiale européenne ISS. Certaines agences encouragent l'apprentissage du chinois et d'autres langues pour favoriser la coopération avec les programmes spatiaux internationaux. Un astronaute doit être un véritable couteau suisse, science, technicien, communicant et athlète.
Bah dis donc, ça fait vraiment beaucoup, hein.
Oui, mais en plus, un astronaute doit maîtriser un large éventail de compétences, notamment l'informatique et la programmation pour gérer les systèmes embarqués, la mécanique spatiale, et l'électronique pour assurer la maintenance des équipements, les sciences médicales pour surveiller la santé des équipages en mission, les protocoles de recherche scientifique pour mener des expériences en microgravité. En résumé, un diplôme scientifique Bac plus 5 minimum et une solide expérience professionnelle sont requis. Les astronautes doivent posséder d'excellentes capacités physiques et mentales afin de supporter les défis des missions spatiales. La maîtrise des langues, notamment l'anglais et le russe, est essentielle pour travailler avec des équipages internationaux.
Bien, merci donc à Adama pour sa chronique. Nous allons dorénavant commencer le quiz, mais avant, écoutons la pause.
Foi et du courage, une relation remplie de rage qui démarre sur des bases pourries. Elle m'a quitté genre triste à mort alors que son cœur criait hurrah et que le mien cassait en mille. En bas du bâtiment, on surnomme la petite fumée des réseaux. J'ai longtemps cru que j'étais le seul, que c'était moi le numéro 1. En fait j'avais v'là les rivaux. Connu dans la ville, sans but précis dans la vie. Un shit caché dans l'aveugle, c'est vient dans ma vie pour combler un vide.
Vous venez d'écouter Quartier Santos de SDM, messieurs, donc Elouane et Clément, ainsi que Jules Grand-Cyr. Êtes-vous prêts pour le quiz ?
Prêt. Oui, prêt.
Prêt. Ouais. N'oubliez pas que 2000 euros sont en gage.
2000 euros ?
2000 euros.
Yes. Pour une association ?
Bah, bien sûr. Ah. 2000 euros. Donc, première question. Quel est le premier astronaute à être allé dans l'espace ? Ou quel est le premier humain, si vous voulez, à être allé dans l'espace ? Réponse 1, Neil Armstrong. Réponse 2, Yuri Gagarin. Troisième réponse, William Turner. Quatrième réponse, Joseph Cooper.
Moi, je pense que c'est Yuri Gagarin.
Moi, je pense à la réponse 2 aussi, Yuri Gagarin.
Je pense que c'est Yuri Gagarin. Après, bon, on va dire que c'est Yuri Gagarin.
Bah, très bien, la réponse est donc la réponse 2. Ça fait 1-1, donc 1 pour tout le monde. On peut enchaîner avec la...
Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une... Il y a des gens qui disent qu'il y aurait eu des Russes qui seraient partis dans l'espace avant Yuri Gagarin, mais que Yuri Gagarin, ce serait le premier qui aurait survécu à son vol spatial.
Qui aurait survécu. Voilà.
Ça, à l'époque, c'était la guerre froide, et donc forcément, il y avait beaucoup de secrets autour des missions spatiales. Et donc, voilà. Yuri Gagarin, c'est le premier dans l'histoire à être allé dans l'espace.
Bon. Ouais. C'est intéressant ce que vous dites. Merci.
Merci.
Merci pour cette petite anecdote. Donc, on passe à la deuxième question. En quelle année l'homme a-t-il marché sur la Lune ? Réponse 1, 1972. Réponse 2, 1959. Réponse 3, 1969. Et réponse 4, 1986.
Moi, je pense à la réponse 3. C'était quoi déjà ?
La réponse 3.
La réponse 3, j'ai cru.
Moi, je pense que c'est la réponse 2.
Uh-huh. Et c'est quoi l'année ?
1959.
59, et toi tu penses que c'est quelle année ?
Je sais plus ce que c'était.
C'est 1969, la 3.
Oui.
Et pour vous, monsieur ?
Je sais pas.
Ok. Donc, la réponse. Et la réponse 3. Donc, bravo à Elouane d'avoir répondu.
Bravo Elouane.
Bravo Elouane.
Sans savoir l'année, et en sachant que c'était la réponse 3.
Donc, oui. Donc, le premier être humain à être sur la Lune, c'est bien évidemment Neil Armstrong, hein, en 1969. Et c'est d'ailleurs le moment où il prononcera les célèbres mots « C'est un petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour l'humanité voilà. ». Ensuite, troisième question. Combien y a-t-il de planètes dans le système solaire ? Réponse 1, 8 planètes. Réponse 2, 9 planètes. Réponse 3, 7. Et réponse 4, 10 planètes.
Moi, je pense que c'est 7.
Uh-huh. Je pense que c'est la réponse 4, hein, y en a 10.
10 uh-huh. C'est quoi là ? Moi, je dirais que c'est 7. Je dirais que c'est 8. Mais j'aimerais bien qu'il y en ait 9. Mais...
Alors, la réponse est évidemment 8.
Ah.
Donc, malheureusement, personne n'a eu le point.
C'est quoi Bah si, j'ai dit 8, moi.
Ah, vous avez... Ah, ok. Bon. Donc, ça fait un point pour vous.
C'est quoi la 10e planète, Éloane ? T'as dit qu'il y en avait 10. C'est quoi la 10e planète ?
Je sais pas.
Non, les 10 planètes, c'est Mercure, ouais. Mars, ouais. La Terre, Neptune, je crois.
Ouais. Vénus.
Vénus. Jupiter.
Ouais. Uranus.
Et Uranus.
7, ça fait 7.
Et Saturne, non ? Je sais pas si je l'ai dit.
Saturne, 8. Ah. Et donc, les deux autres, c'est quoi ?
Je sais pas d'où elles sont sorties. Hein.
Donc, il y a Pluton, qui était une planète oui, pendant très longtemps, et qui n'est plus une planète. Mmh. Dommage.
Donc, on passe à la quatrième question. Quelle est la vitesse de la lumière ? Réponse 1, 1000 km par heure. Réponse 2, 300 mètres par seconde. Réponse 3, 300 km par heure. Et réponse 4, 1080 km par heure.
Je pense que c'est la réponse 1.
Ah, pas le droit de dire réponse 1 ou 2. C'est quoi le chiffre?
Moi, je pense que c'est 1080 mètres par heure.
Toi, t'as dit quoi?
Je pense que c'est 1000 km par heure, la réponse 1.
Moi, je dirais 300 000 km.
300 000 km
par heure.
Alors, donc, je viens d'apprendre que finalement, je me suis trompé sur sur une des réponses, qui est la réponse, bien sûr. C'est pas 300 mètres par seconde, mais 300 millions de mètres par seconde.
Ah, c'est ce qui me semblait.
Bon, 300 millions de mètres par seconde. Donc, personne n'a dit la bonne réponse.
Elle était dure, celle-là.
Elle n'était pas proposée en même temps, la bonne réponse.
C'est vrai qu'elle n'était pas proposée. Excusez-moi. Bon, celle-là, on va dire qu'elle compte pas forcément. On passe à la dernière question. Nombre de tests pour devenir astronaute en France. Alors, réponse 1, 5. Réponse 2, 4. Réponse 3, 3. Et réponse 4, 6.
Moi, je pense que c'est la réponse 3. C'est sûr.
Pour vous, réponse 3 aussi.
Et pour vous, monsieur?
C'est carrément plus que 3. Enfin, y a plein de tests. Mais tu veux dire les étapes, peut-être?
Les étapes.
La première étape, c'est une étape, ce qu'on appelle de screening informatique. C'est-à-dire qu'on envoie sa candidature par Internet. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, c'est l'étape des tests psychotechniques. C'est-à-dire qu'on se retrouve à Hambourg et les candidats doivent passer des tests sur ordinateur, de mémoire, de réflexe, de coordination, etc. Donc, ça fait deux. Troisième, ceux qui sont sélectionnés vont dans des tests psychologiques. Donc là, on les interviewe, leur profil psychologique. Ils font des exercices à 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, il y a l'étape de médicale. Et là, pendant une semaine, dans un hôpital, ils font tout un tas de tests médicaux. La cinquième étape, c'est un entretien professionnel que moi, j'ai fait passer, notamment au dernier candidat astronaute. Et la sixième étape, c'est un entretien d'embauche avec le directeur général. Donc, je dirais 6.
Donc, évidemment, comme vous venez de le dire, on va dire qu'il y en a 6.
Réponse 4, 6.
Réponse 4, 6. Donc, nous sommes, donc c'est monsieur Jules Grand-Cyr. Monsieur Grand-Cyr, excusez-moi. Donc il y a eu la bonne réponse. Nous sommes donc à 2, 1 et 3. Donc bravo à vous, monsieur. Donc vous venez de gagner 2000 euros. Vous les recevrez demain, vous inquiétez pas.
Merci. Pour Radio Campus Paris, bien sûr.
Bien sûr. Donc, alors, merci de nous avoir écoutés dans l'émission La vie au-dessus des nuages de Radio Campus Paris. Un grand merci à Adama pour sa chronique et aux trois autres joueurs, excusez-moi, en comptant Jules Grand-Cyr, ainsi qu'à Mehdi en réal. On se retrouve très bientôt. Au revoir.